Les M2 Pro et M2 Max pourraient être les tout premiers processeurs gravés en 3 nanomètres au lieu de 5 pour les M1 Pro et M1 Max, mais aussi pour le M2, avec à l'arrivée une sacrée pagaille dans la gamme Mac en termes de performance. C'est l'événement de la semaine dans un instant. Mauvaise surprise à venir pour les acheteurs de MacBook Pro M2 13 pouces en version 256Go. Son SSD est deux fois moins rapide que sur l'équivalent M1 de l'an dernier. Apple a voulu faire des économies avec une seule barrette SSD au lieu de deux. C'est l'info de la semaine. L'automne sera chaud avec entre 20 et 25 nouveaux produits qui seraient annoncés par Apple avant Noël. Le détail de cette hotte de Noël à venir à suivre dans Pommes. L'iPad va-t-il ou ne va-t-il pas continuer à servir de concentrateur HomeKit ? La réponse dans Ma Maison Connectée. Et puis 4 images, plus vraies que nature, des prochains AirPods Pro 2 et un étui de recharge potentiellement doté de l'USB-C avec un micro et des haut-parleurs. Mais pour quoi faire ? Ce sera l'une des rumeurs de la semaine. Jeudi 30 juin 2022, 27 degrés dans l'air et 39 degrés à mon thermomètre. Et oui, ici Benjamin Vincent, tout covidé. Vous excuserez ma voix grippée et cet épisode moins dodu que d'habitude sans doute. En partie aussi grâce ou à cause de l'absence d'Eli et de Gilles qu'on embrasse bien fort. Heureusement, eux sont fidèles au poste et au rendez-vous de jeudi soir. Salut les moussaillons, salut Fabrice Neumann et François Le Truédic.
Salut capitaine.
Salut chef.
Comment ça va Fabrice?
Ça va bien, ça va bien. Écoute, ça fait plaisir d'être là parce que du coup, ça va me faire une pause dans la journée parce que j'ai une journée un peu tendue, j'ai plein de trucs à faire. Voilà. Donc je me repose avec les copains, merci beaucoup. Mais rassurez-vous, je ne vais pas dormir.
Bon, bah tant mieux. On va essayer de te maintenir éveillé, contrairement à moi. Et salut François.
Salut Benjamin, salut Fabrice, très heureux de vous retrouver et je compatis mon cher Benjamin parce que voilà, j'y suis passé il y a 3 semaines pour la première fois à ma connaissance et c'est vrai que ce sont des moments pas faciles. Bon, mais je sais pas si tu as vu, Eli est un peu avec nous. Hein.
Ah bon ?
Ben regarde dans le petit coin de l'image là sur ma gauche, bon il y a un chien mais juste à côté du chien, regarde. Tu vois, il y a Eli là, si tu regardes, l'enfant.
C'est Eli très malade.
C'est Eli malade, un peu vert, ouais. Juste avant qu'il vomisse, voilà. Petit clin d'œil, donc on va rien dire et on verra s'il me bâche sur les réseaux sociaux.
Bon, alors on n'explique pas aux auditeurs qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur.
Si,
alors,
ben si, il faut, vas-y Fabrice.
Il y a une petite statuette d'un personnage bien connu du Mandalorian, mais qui est plutôt, qui tire un peu sur le vert, quoi. Voilà, pour pas dire voilà. Le nom, parce que des fois ça...
C'est ça.
Non.
Bon. C'est le 97e épisode, mine de rien, c'est le dernier du mois de juin, 44e numéro de la saison 2. Ça sent un peu les vacances. Dans quelques minutes, on va causer du SSD décevant du MacBook Pro 13 pouces M2. On va voir pourquoi seul le modèle 256Go est concerné par ces résultats déroutants. Mais tout d'abord, le grand bazar des processeurs Apple Silicon, c'est dans 3 secondes. Bon, si je vous dis 3 nanomètres, les garçons... vous m'auriez dit quel processeur ?
Comment dirais-je ? À partir du M3, je pense que c'est ça que tu veux comme réponse, n'est-il
ouais,
pas ?
Ouais, ça m'arrange bien que tu dises ça.
Moi, j'ai envie de dire, est-ce que le grand public est vraiment intéressé par la taille du processeur ? Ça, c'est un autre débat, je pense.
Non, mais ce qui compte, c'est ce qu'on peut faire avec.
Ça, on est d'accord.
Et donc, avec 3, on fait plus qu'avec 5.
Ça peut être étonnant. Il faut le noter.
Voilà. Ça peut être étonnant, mais en fait, pour les processeurs, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, un processeur gravé en 3 nanomètres va permettre de mettre davantage de transistors et moins chauffé, etc., qu'un processeur en 5 nanomètres. La surprise de la semaine, et ça reste évidemment à confirmer, mais on a quand même pas mal d'indices qui vont dans le même sens, c'est que finalement la gamme M2 continuerait de s'agrandir comme ça avait été le cas avec la gamme M1, en changeant de finesse de gravure, Fabrice, et on passerait donc du 5 nanomètres pour le M2 au 3 nanomètres pour les M2 Pro et M2 Max, donc dès les prochaines puces qui seront annoncées sans doute d'ici quelques mois.
Donc ça risque d'être un peu le bazar. Alors comme le fait remarquer François, naturellement, il y a quand même peu de gens qui regardent la finesse de gravure du processeur pour choisir la machine qu'ils achètent. Cela dit, une des promesses de la finesse de gravure, donc de plus en plus fine, c'est que le processeur puisse être monté en gigahertz, j'allais dire en mégahertz. Et puis, en gros, il peut être plus puissant en dégageant moins de chaleur et en consommant moins d'énergie, et donc en permettant des portables, par exemple, avec une autonomie plus grande. Donc ça, c'est ça qu'on va regarder. Ça peut être des portables qui ont, au lieu de 17h, 20, 22, 21, 22 heures d'autonomie dans certaines conditions, et c'est ça que ça peut apporter. Et là, le bazar que ça crée, c'est que le M2 qui a été annoncé, qui est maintenant disponible dans le MacBook Pro 13 pouces et bientôt dans le MacBook Air, une nouvelle génération. On espérait qu'il soit en 3 nanomètres, mais on a suivi ça un peu. Donc l'entreprise TSMC qui fabrique tout ça n'est pas prête. Donc c'est du 5 nanomètres comme avant, légèrement amélioré. On a vu ce que ça signifiait, notamment pour la quantité de mémoire potentielle qu'on peut embarqué dans ces machines, mais c'était pas prêt. Ce sera peut-être prêt donc pour les processeurs suivants, qui du coup auront des caractéristiques un petit peu différentes, alors qu'elles seront quand même dans la gamme M2. C'est ce qu'on disait dans la quotidienne, hein, ça va nous donner du boulot à expliquer tout ça.
François, est-ce que la logique aurait pas été que toute la gamme M2 soit en 3 nanomètres et donc repousser de quelques mois peut-être son lancement?
Je t'avoue que ça me laisse perplexe. Je l'avais déjà dit à l'issue de la keynote, je pense que personne ne s'attendait à avoir ces MacBook Air et MacBook Pro M2. Et cette info-là, en fait, renforce ce sentiment, je sais pas, soit Apple s'est senti obligé de devoir sortir des nouveautés, ou alors ça n'a ni queue ni tête, je sais pas. L'un et l'autre, à la limite. C'est vrai que ça deviendra difficilement explicable. Alors, comme le disait Fabrice, hein, le commun des mortels s'en fout un peu, je pense. Mais c'est plus de se dire qu'une puce M2 normale sera en 5, et une puce M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra, et peut-être le dérivé aussi spécifique pour le Mac Pro, qu'on attend toujours, hein, serait gravé en 3. Pourquoi ? Pourquoi? Ou alors finalement, ouais, est-ce que tout ne restera pas en 5 nanomètres et ce sera sur le M3 qu'on passera en 3? Ça questionne quand même énormément et je pense que tout est lié aussi à la pénurie des composants, au retard qu'a pris Apple, à la fermeture des usines en Chine. Je pense qu'il y a plein de choses qui ont provoqué ce retard, ouais, et cette petite différence, et je pense que ça explique aussi le sujet qu'on va traiter juste après.
Si l'arrivée du 3 nanomètres se confirme, Fabrice, sur le M2 Pro, le M2 Max, quel genre de gain en performance on peut attendre, à ton avis, par rapport au même processeur qui serait en 5?
Alors en performance, finalement, je m'attends pas à des gains de performance en eux-mêmes, parce qu'on sait que dans la gamme des M1, M1 Pro, Max et puis Ultra, mais enfin ça c'est même un cas particulier. Les performances par exemple monocœur sont les mêmes, hein, les processeurs sont globalement identiques, et donc en monocœur c'est identique, et en multicœur ça augmente parce qu'il y a plus de cœurs dans chacune des différentes versions, et plus de mémoire et ceci cela. J'imagine que la gamme M2 va répéter ça, mais que une gravure un peu plus fine permettra à ces processeurs de chauffer un peu moins et d'avoir donc moins besoin donc de puissance et aussi de des ventilateurs pour refroidir. On en parlera, comme disait François tout à l'heure, le MacBook Pro 13 pouces M2 a globalement un petit problème de chauffe. Alors, toute proportion gardée, hein, on n'en est pas au niveau des processeurs Intel d'avant qui allaient jusqu'à 100 degrés pour essayer de faire tourner quoi que ce soit. Mais ça chauffe un peu plus que le M1. Et c'est peut-être en partie lié à cette finesse de gravure qui est restée à 5 nanomètres.
François, quand tu dis que Apple a pris du retard, en fait, t'as pas l'impression qu'au contraire, ils vont un peu trop vite?
Ben en fait, les deux pourraient se... Les deux passent, je trouve. En fait, c'est les deux. C'est-à-dire qu'Apple a pris du retard dans le sens où je pense qu'ils auraient bien aimé le mettre en 3 nanomètres, mais Apple est en avance parce que du coup, ils sortent le M2 en amont, quoi. C'est un peu l'un et l'autre en même temps. Je pense que on va pas revenir sur le mystère du MacBook Pro, hein, ça, je pense qu'on l'a déjà dit, et puis on y reviendra encore tout à l'heure. Mais je pense que ce MacBook Air, ils avaient vraiment envie de le présenter, parce que le MacBook Air est une machine qui avait quand même une conception assez ancienne. Comme on l'a dit, il y a les histoires de rentrée scolaire. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui attendaient ce nouveau MacBook Air avec ce nouveau design. Donc je pense que c'est aussi pour ça. Et Apple voulait peut-être aussi s'éviter le fait qu'on dise, oh bah de toute façon ils ont juste revu le châssis, le reste c'est du M1. Et je pense que pour marquer le coup de ce changement de design, il fallait sortir du M2. Donc ils ont sorti du M2, peut-être pas le M2 qu'ils souhaitaient, mais ils ont sorti quand même du M2. Voilà, après c'est une explication qui je pense amène débat et puis mais c'est je me répète, c'est étonnant quand même.
Ouais.
Ça me surprend.
Est-ce qu'il y a un risque, Fabrice, quand le, par exemple, le M2 Pro sortira, qu'il soit plus rapide que le M1 Max?
Alors, dans certaines conditions, oui, notamment en monocœur. Hein, toutes
Pourquoi?
les tâches qui n'ont besoin que d'un seul cœur, parce que c'est déjà le cas aujourd'hui, finalement. Le M2, le MacBook Pro 13 pouces M2 disponible aujourd'hui en monotâche a atteint, il me semble, sur Geekbench un score de 1900 et quelques. Un M1, quelle que soit sa version, en monotâche, n'atteint que entre guillemets 1700. Je rappelle pour comparaison que le plus fort des Intel atteignait péniblement 900 ou 1000, hein, il me semble me souvenir. Mais donc tout ce qui est monotâche, et donc quand on fait de la copie de fichiers, quand on fait des tâches assez simples et dans des logiciels qui ne sont pas conçus pour le multitâche, le M2 va aller plus vite que le M1 Pro ou Max. C'est déjà le cas. Voilà. Ensuite, les différences, on a vu que le M2 intègre le Neural Engine, enfin plutôt les Media Engine pour le codage décodage en 4K et ou 8K aussi, il me semble, qui était jusque-là réservé justement M1 Pro et M1 Max. Donc on est en plein, on patauge justement parce que la gamme n'est pas. Et pas vraiment différencié au niveau du processeur. Il me semble que ça veut dire que Apple va vraiment chercher à différencier ses gammes sur le nom de ses machines, sur les prix, etc. Mais pas tellement sur le processeur, parce qu'ils vont avoir du mal à raconter une belle histoire autour de ça. Ça va être vraiment compliqué.
Bon, c'est notamment sur les SSD qui vont peut-être différencier leur modèle. On en parle dans un instant à propos du MacBook Pro 13 pouces M2. À tout de suite. L'info de la semaine, ce sont ces premiers tests très décevants du SSD du MacBook Pro 13 pouces M2. Je précise, le modèle 256 Go avec des vitesses en lecture divisées par deux par rapport au même modèle en M1 et 50% moins rapide en ce qui concerne la vitesse d'écriture. On sait pourquoi. Qu'est-ce qui se passe avec ce modèle en particulier? François, Fabrice, lequel veut nous expliquer la raison de tout ça?
Est-ce qu'on la sait vraiment la raison?
Ah, il me semble que oui. Il me semble
Fabrice.
que oui. Hein. Je vais me lancer alors. Il semble que ceux qui
Déjà, tu
les
commences
ont
par il
testés.
semble, donc.
Alors, mais parce que je ne l'ai pas eu dans les mains, donc j'ai pas testé moi-même, donc je reste prudent. Mais ceux qui ont testé, qui ont fait notamment des vidéos avec, ont montré physiquement que ces MacBook Pro 13 pouces n'avaient qu'une seule puce servant de SSD, puisque ils sont maintenant des puces, d'une capacité de 256 Go. Au contraire du MacBook Pro 13 pouces M1 qui avait deux puces de 128 Go, ce qui permet à cette machine d'utiliser une sorte de RAID logiciel interne pour doubler globalement les capacités de lecture et écriture, les vitesses de lecture et écriture de cette zone de stockage. Donc c'est ce qui expliquerait cette vitesse bien moindre dans les débits. Alors une des explications que j'ai entendues, ce serait que les productions, la production des puces évolue en même temps et que les puces 128 gigas ne sont plus ou moins fabriquées. Et que du coup, Apple se retrouverait coincé en disant, donc finalement, ce qu'on pourrait reprocher à Apple, c'est de fournir encore, de proposer encore un modèle 256 gigas pour préserver un peu ses marges. Voilà. Et ce faisant, du coup, ce modèle-là se retrouve pour des débits, les transferts de données sur le SSD, des débits deux fois moindres, ce qui est un petit peu dommage.
Ouais, alors on le voit très bien sur les vidéos où le MacBook Pro donc 13 pouces a été désossé. On a une vidéo qui compare le M1 et le M2, les deux modèles. On voit effectivement que sur le MacBook Pro 13 pouces M1, il y a deux petits composants soudés côte à côte, alors que sur le modèle M2, il n'y a que l'emplacement de droite qui est occupé. Les mauvais esprits disent que en fait, ces modules de 128 gigas, Apple ne s'en sert que sur le modèle 256. Donc ils ont intérêt à n'acheter que des 256. Mmh. Comme ça, ils en mettent un sur le modèle 256 et ils en mettent deux sur le modèle 512. Ça leur permet de rationaliser, peut-être de payer un ou deux dollars de moins sur une machine. Mais la conséquence, c'est que la chute de performance, elle est spectaculaire.
Oui, en fait, j'avais mal interprété ta question. En fait, je pensais que ta question c'était pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, et non pas pourquoi est-ce que c'est moins rapide.
Ah, bah alors pourquoi ils ont fait ça ? Alors je te la pose.
Eh bah, moi, à mon avis, je pense que clairement, je vois deux raisons. Trois. La première, ça peut être effectivement, on va faire bon esprit. C'est une nouvelle conception et donc du coup, l'idée c'est d'avoir des puces de mémoire de 256 gigas et ils gèrent pas les 128. Donc du coup, vu qu'il y a deux espaces, et bah, obligatoirement ils sont obligés de mettre du 256 d'un côté et rien de l'autre. Ça, c'est le bon esprit. Moi, à mon avis, c'est peut-être plus lié à la pénurie. Peut-être qu'il y a une pénurie du côté des 128. C'est peut-être plus simple en fait de s'approvisionner une puce de 256 que deux puces 128. Ou alors pour moi la vraie raison, c'est celle que tu as donnée en préambule, c'est une question de coût. Je pense que clairement ça doit coûter moins cher à Apple d'acheter des lots de 256 que d'acheter des lots de 128 et des lots de 256. Et peut-être que sur le nombre ils économisent quelques euros par machine. Moi je trouve ça assez pingre de la part d'Apple, mais une fois de plus j'ai envie de dire, quand on voit le prix de ces MacBook Pro M2 qui sont quand même assez chers avec une conception hyper ancienne et peu de nouveautés, je déconseille à cette machine de base et ça va encore me donner plus de grains à moudre pour dire n'achetez pas cette bip. C'est une honte pour moi, enfin vraiment. Ouais. Le fait qu'il y ait une telle différence entre les deux modèles, c'est naze, il n'y a pas d'autre mot.
Alors, malheureusement, il y a déjà une quantité d'acheteurs qui ont commandé leur MacBook Pro 13 pouces M2 256.
Il y en avait que 3 en stock, hein, donc...
Ouais, mais bon, ils ont quand même commandé une machine sans avoir toutes les infos, et donc ils vont avoir la mauvaise surprise au déballage, comme on dit. Maintenant, pour ceux qui n'avaient pas encore fait leur choix et qui veulent absolument ce modèle, ils vont aussi être poussés de facto à prendre plutôt le modèle 512 et donc à dépenser plus.
Et une fois qu'on prend l'option 512, le prix peut se rapprocher grandement, encore plus du MacBook Pro 14 pouces qui lui a le droit à un SSD de 512 Go. Certes, ce n'est pas du M2, c'est du M1, mais c'est du M1 Pro avec un bel écran micro LED, avec une belle caméra. Voilà, pour moi clairement, si vous avez déjà un ordinateur, que vous avez besoin d'un nouvel ordinateur et cet ordinateur vous faisait de l'œil, attendez 6 mois et attendez que le MacBook Pro 14 pouces soit peut-être encore plus dispo sur Refurb et partez sur un MacBook Pro M1 14 pouces quoi. Clairement non, pas cette machine, vraiment non. Ouais.
Fabrice, c'est quoi ton conseil?
Alors un peu le même, mais pour revenir un petit peu sur quelques trucs, j'ai quand même l'impression qu'on assiste à une des multiples démonstrations de ce que fait Tim Cook, c'est-à-dire que c'est lui le maître mondial de la chaîne d'approvisionnement. Je pense que c'est clairement son influence qu'on voit là, c'est-à-dire que pour gagner, comme tu disais Benjamin, un dollar ou deux, on prend du 256 gigas au lieu de 128, et c'est un problème acceptable pour générer un petit peu plus de marge et pour aussi assurer une chaîne d'approvisionnement, pour revenir aussi sur la pénurie de composants qu'on sait. S'il y a un peu moins de 128 gigas parce que c'est moins fabriqué, parce que les fabricants vont plutôt vers le 256 parce qu'ils ont des capacités de fabrication limitées, alors ça paraît logique d'un point de vue industriel de faire ce choix là et après pour le choix de la machine, non, moi non plus je la conseillerais pas pour toutes les bonnes raisons qu'a déjà dites François, et puis rappeler que c'est effectivement c'est une webcam pas terrible et tout le reste. Ce que j'entends comme analyse que je trouve assez intéressante, c'est que cette machine existe parce que pour être là dans un compartiment de gamme et pour proposer aux entreprises une machine qui s'appelle Pro. Alors nous, on sait qu'elle n'a de Pro que le nom, mais il semble qu'il y ait des entreprises qui achètent des camions d'ordi tous les ans, que puisque c'est des entreprises, alors elles achètent le modèle Pro. Et le premier modèle Pro, du coup, c'est celui à 1 400 euros, c'est pas celui à 2 000. Et les budgets étant ce qu'ils sont, c'est le service informatique qui décide des machines qui sont achetées, c'est pas l'utilisateur. Donc on donne à l'utilisateur cette machine-là, même s'il n'est pas content, même si l'utilisateur est un peu plus réveillé parce qu'il a la bonne idée de nous écouter, par exemple, bah, il n'a pas le choix. Son service informatique lui donne, oh regarde, je t'ai donné un Pro, c'est vachement mieux que le MacBook Air. Alors que non. Non seulement on peut attendre 6 mois pour avoir un refurb, le MacBook Pro 14 pouces, comme disait François, ou on attend un mois ou deux pour avoir le MacBook Air M2, qui est pareil que le MacBook Pro, en mieux, avec finalement un port supplémentaire, parce qu'il y a MagSafe et donc ça sauve un port USB-C, une meilleure webcam, un design plus fin et le même processeur. Donc voilà. Mais il y a des gens qui n'ont pas le choix. Voilà. Je pense que c'est pour ça, hein, que Apple a dit que c'était le MacBook Pro 13 pouces, la deuxième machine la plus vendue, après le MacBook Air. C'est les entreprises qui achètent ça par camion, parce qu'il y a marqué Pro dessus.
Bon, ben voilà, vous avez tout compris, j'espère, et vous avez aussi compris que on vous conseille, bah, de ne pas craquer pour ce MacBook Pro 13 pouces qui ne nous plaît pas du tout. Allez, on se retrouve dans une poignée de secondes pour partager avec vous les news de la semaine, c'est Pommes. Et on se dirige vers un automne très très chargé, peut-être l'automne le plus riche de toute l'histoire d'Apple, avec entre 20 et 25 nouveautés qui seraient sur les rails selon les sources. L'une des sources étant notre confrère de Bloomberg, Mark Gurman. Alors, si je liste une partie de ce qui est attendu, alors 4 iPhone 14, 3 Apple Watch 8 et SE, un iPad 10, 2 iPad Pro, les AirPods Pro 2, on va en reparler, un nouveau HomePod avec potentiellement un écran multitouch sur le dessus. Alors peut-être pour 2023, mais peut-être aussi avant Noël, on ne sait pas. Deux Mac Mini, on parle de M2 et de M2 Pro. Deux MacBook Pro, M2 Pro et M2 Max. Le nouveau Mac Pro. M2 Ultra et potentiellement M2 Extreme. Voilà, 20 nouveautés minimum, peut-être 25. Ça veut dire des keynotes rythmées, hein, sans doute, cet automne.
Ah bah là,
Tout
oui.
un tas de communiqués de presse, d'annonces.
Ouais.
Je rejoins Fabrice, je pense qu'il y a peut-être certains produits qui auront le droit juste à une petite pastille pendant une keynote ou un communiqué de presse. Je prends l'exemple, par exemple, si effectivement il y a des nouveaux MacBook Pro M2 Max, M2 Pro, je pense pas qu'il y aura beaucoup de différence par rapport au modèle actuel. Sauf s'ils font une keynote en mode professionnel en disant regardez, on a notre nouveau Mac Pro Ultra, il est magnifique, etc. Achetez-le là éventuellement, ouais,
Ouais. Alors, je suis pas d'accord avec
mais
toi parce
ça.
que pour faire le lien avec le sujet précédent, si effectivement il passe en 3 nanomètres, je pense qu'Apple sera le premier constructeur au monde à le proposer. Et même si l'important c'est ce qu'on fait avec et pas les mégahertz ou les nanomètres, à mon avis, ils insisteront dessus. Donc moi je les vois bien dans une keynote quand même, les MacBook Pro.
On verra. J'avalerai peut-être mon chapeau.
Il y aura peut-être, alors on va dire, alors on prendra moins de risques avec les AirPods Pro qui seront peut-être annoncés par un communiqué de presse. Mais là
Non, non,
encore,
ça
t'as
ce sera avec
raison,
la
sauf
keynote,
si.
ce sera avec les iPhones.
Alors peut-être, ouais, ou sauf si en plus ils deviennent des wearables plus, c'est-à-dire qu'il y aurait des capteurs en plus des détecteurs où on les a dans les oreilles ou pas, qui font, je sais pas, de la captation de rythme cardiaque par exemple dans l'oreille. Ça devient une autre catégorie de produits. Alors, c'est difficile à savoir, hein. En tout cas, ils nous ont la WWDC, la keynote de la WWDC était hyper concentrée, hein, donc ils peuvent aussi faire ça à marche forcée. Allons-y, vous en voulez, on va en bouffer. Hein.
Un nouveau HomePod potentiellement avec cet écran sur le dessus du multitouch, ça vous fait envie ou finalement vous pensez que c'est juste une V2 plus conviviale?
Je sais pas quoi te dire. S'il est plus fiable que le premier, ouais, why not. S'il est plus fiable que le HomePod et qu'ils améliorent Siri, oui, clairement, ça fait envie. Maintenant, on en reparlera tout à l'heure, peut-être, un jour. Mais c'est vrai que moi, ça reste une grosse déception. Et hier soir encore, à la maison, on a demandé à Siri de nous jouer quelque chose et... Il pédale dans la semoule. Alors je sais que moi chez moi j'ai plus la fibre, donc c'est sans doute lié, mais pour moi ça reste un produit qui avait un super potentiel, je veux dire un PUT, etc. de potentiel,
ouais.
Mais je trouve que la partie software est pas à la hauteur, et que c'est hyper plantogène, et que s'ils en sortent un nouveau, bah faites un OS qui tienne la route, quoi. Déjà ce serait bien, quoi. Parce que ma paire d'HomePod m'a quand même coûté un petit budget, c'est toujours un peu frustrant, quoi.
Fabrice, tu as une expérience avec le HomePod?
Le HomePod mini, pas le HomePod tout court. Justement, moi, le HomePod me faisait envie, mais le modèle à 350 €, moi, j'ai pas sauté le pas. Je crois comprendre que François, c'est ça que t'as, hein, c'est pas des mini, c'est des HomePod tout court.
J'ai deux gros et deux petits.
Et le gros me faisait envie, mais du coup, et c'est pareil avec le HomePod mini, on s'aperçoit que finalement c'est quand même mieux d'en avoir deux et de faire une paire stéréo avec, que ce soit les mini ou les originaux. Et donc ça faisait 700 €, c'était quand même un peu beaucoup. Il y avait des technos dedans qui étaient vachement intéressantes, mais qui s'avèrent finalement pas très utiles. Hein. On rappelle que sur les gros HomePod, ils faisaient de l'analyse de la pièce pour optimiser le son en faisant les réverbérations sur les murs, etc. Alors c'est peut-être très bien, mais donc on s'en sert une fois, parce que finalement, les HomePod, on les bouge pas tous les 4 matins. Des HomePod, il me semble avoir compris que le HomePod mini a eu un vrai succès grâce à son prix et à son rapport qualité-prix en termes de qualité sonore. Ça, c'est évident que c'est vraiment très très bien. Donc un HomePod un peu plus gros qui serait plutôt 200 €, qui aurait pas tout. En gros, Apple a fait la démonstration que toutes les fonctions super formidables avec les 6 haut-parleurs et la détection des murs, etc., tout le monde s'en fout, c'est trop cher. Donc il faut faire autre chose, avec éventuellement des HomePod ayant un peu plus de coffre, parce que le HomePod mini en manque un peu. Et voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'écran multitouch par-dessus, ça c'est une phrase qu'a lancé Gurman dans sa lettre là, en disant écran multitouch, on sait pas ce que ça veut dire. Si c'est un écran par-dessus, comme il y a aujourd'hui là qui fait de la couleur, j'ai beau chercher, je vois pas à quoi ça peut servir, quoi. Faire du glisser à un doigt ou deux.
Ils vont nous refaire du front row, tu sais, comme sur les iMac G5 là, on va avoir la belle interface de nos jaquettes et tu pourras.
Ah ouais, super. Peut-être qu'il a pas osé ou qu'il avait pas encore l'info pour dire que ce serait un HomePod avec un écran, justement, plus que le truc sur le dessus à l'horizontale comme on a aujourd'hui. On a déjà évoqué ça dans Ewik, hein, le fait qu'il y aurait un HomePod avec un écran qui serait peut-être un peu orientable pour montrer des photos et les deux minuteurs pour les pâtes et les haricots verts qu'on a mis dans sa cuisine.
Bon, en tout cas, ça promet un automne et une rentrée de feu de Dieu, donc au moins c'est une bonne nouvelle. On va pas s'ennuyer. La deuxième news de la semaine, ce sont les premiers bench du processeur M2. Alors on est dans la suite de ce qu'on racontait tout à l'heure. Des bench qui confirment les chiffres donnés par Apple à peu de choses près. Le M2 est plus rapide que le M1, c'est quand même rassurant. Voilà, il n'est pas plus rapide que le M1 Pro, donc lui contribuait à la paix des ménages, Fabrice, et à la bonne compréhension de cette évolution en douceur, puisqu'on était à plus 11,56% en test monocœur et plus 19,45% pour les tests multicœur par rapport au M1.
Bah, oui, ça mais donc... uniquement quand on est en monocœur, le M2 est plus rapide que le M1 Pro. puisque le M1 Pro est un M1. Rappelons-le quand même, hein, c'est ça qui est très étonnant. Hein.
François ?
Non, ça reste une petite évolution, mais on l'avait dit quand les premiers M1 sont sortis, le gap était tellement énorme qu'il fallait pas s'attendre à des courbes x2 à chaque fois, quoi, à chaque mise à jour, ça paraît logique. Là, petit à petit, ça va évoluer. Maintenant, il n'y aura pas d'aussi grosse marche entre chaque version de processeur. Ça paraît logique.
Apple a déposé un brevet de volant de voiture. Ça date d'il y a quelques heures. Un brevet alors qui déconnecte le volant des roues de la voiture. En clair, il n'y aurait plus forcément de lien physique entre le volant et les roues. Ça voudrait dire notamment que les roues pourraient être contrôlées à distance. En février 2021, on va rappeler qu'Apple avait déjà déposé un brevet d'airbag. Et donc on peut dire que c'est un nouveau brevet qui va continuer d'alimenter les espoirs autour d'une future voiture Apple. Notamment depuis cette image de CarPlay Plus, puisque ce serait son nom, cette image du futur de CarPlay qui a été montrée très officiellement à la WWDC et qui nous avait impressionné puisqu'elle occupe toute la largeur du tableau de bord. Bon, un volant Apple, ça, si c'est pas la voiture, au moins le volant, ça vous dit ?
Alors comme c'est détaché des roues, du coup on peut acheter que le volant et mettre ça sur son mur, c'est très beau.
On l'offrira alors, à Ellie.
Exactement.
Pour mettre dans son salon.
Je m'en voudrais de ne pas faire une référence, cela dit, à l'aviation, moi qui habite près de Toulouse, parce que ça me fait penser à ce qu'on avait dit donc il y a très longtemps, j'y étais pas encore à ce moment-là, mais Airbus a été le premier à faire des gros avions qu'on disait fly-by-wire, justement, où le lien entre le palonnier et les commandes de pilotage, ouais, était fait électriquement par des fils électriques pour alimenter des servomoteurs et non plus par tout un tas de poulies et de roues dentées. C'est ça qu'a l'air de proposer Apple, hein, sérieusement. C'est intéressant, ça. C'est encore jamais fait, me semble-t-il. Peut-être en F1, je suis même pas sûr.
Ouais, exactement, c'est ça. François ?
Donc c'est intéressant.
Apple Car ou pas Apple Car ?
Télé-Apple ou pas télé-Apple?
C'est ça.
J'ai tendance à y croire de moins en moins parce qu'il y a eu la présentation de ce produit qui nous en a mis plein les yeux, pardon, à la keynote, ce magnifique écran là. Je pense que si Apple avait vraiment dans les tuyaux une Apple Car rapidement, allez, on va dire dans les 2-3 ans, je suis pas sûr qu'ils auraient présenté ça. Parce que ça aurait été une grosse plus-value pour la voiture. Et là, le fait que ce produit-là soit disponible sur d'autres bagnoles, eh ben, ça donne moins, ça risque peut-être de moins pousser les gens à le faire, parce que c'est cette intégration poussée du système Apple qui est intéressante à l'image de ce qu'il peut y avoir pour Android Automotive, quoi. Et c'est vrai que moi, ma prochaine voiture n'aura pas, du coup, je le sais déjà, ce système CarPlay 2. Et je trouve ça dommage parce que c'est vrai que ça donne envie et on retrouve toute l'ergonomie, la simplicité qu'on peut avoir sur nos téléphones, sur nos iPhones, sur nos iPads, etc. Donc voilà, le fait que ça ait été présenté et annoncé compatible avec des grands constructeurs me fait dire que c'est pas pour tout de suite, quoi, voire pas du tout.
Mais bon, tu as vu que le hack qui permet de mettre CarPlay sur toutes les Tesla est dispo.
Ah non, j'ai pas vu, mais je l'avais dit à l'époque, je pense pas que je vais m'amuser à faire ça quand j'aurai la mienne, si un jour je l'ai, parce que pour l'instant, les délais sont un peu compliqués, mais voilà, je suis pas sûr que je m'amuserai à faire ça, j'aurais trop peur de foutre la bagnole en l'air, c'est pas possible, quoi.
Un petit week-end avec Ellie, ce sera réglé, je pense.
Ah non, j'irai trafiquer sa nouvelle aussi, tiens.
D'accord. Bon, et puis on fête un anniversaire en ce 30 juin, allez, à quelques heures près. C'était le 29 juin 2007, vous vous souvenez ?
Happy birthday !
La folie devant les Apple Store, les gens qui faisaient la queue pour acheter le tout premier iPhone. C'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans seulement, j'ai envie de dire, parce que 15 ans, ça paraît...
Ouais. On se prend un gros coup de pelle quand même.
Ouais, c'est ça, hein. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est passé vite, hein. Voilà, ça fait déjà 15 ans et il a bien changé notre iPhone quand même.
Ah alors, ouais, mais ça.
Il a bien changé et pas tant que ça. C'est ça qui est marrant, hein, quand on regarde l'écran d'accueil. avec les icônes, qu'on ne peut donc par exemple toujours pas ranger comme on veut, mais qui sont toujours organisées depuis le coin en haut à gauche de l'écran jusqu'au coin en bas à droite. Il y a des choses qui n'ont pas changé, qui participent au fait que ceux qui ont eu un iPhone il y a 15 ans savent encore utiliser celui d'aujourd'hui. Alors, en même temps, il y a des choix comme ça, hein. C'est des choix à faire. Donc c'est rigolo, effectivement. Après, en termes de taille et de tout ce qu'il est capable de faire, c'est étonnant.
Voilà pour les news de la semaine. Allez, on tourne une page et on se retrouve pour les rumeurs de la semaine. La première rumeur cette semaine, elle concerne la keynote de rentrée, cette fameuse keynote qui devrait voir l'iPhone 14, l'Apple Watch Series 8 présentée. On parle du mois de septembre et il se pourrait bien qu'elle ait lieu en présentiel avec Tim Cook, Craig Federighi, c'est dur à dire, et tout le casting habituel, alors non pas dans une vidéo, mais sur scène. Comme à la grande époque, devant du public, trois sources chez Apple auraient indiqué à iDrop News que c'est l'option qui tient la corde en interne, même si c'est pas encore confirmé. Mais en tout cas, il y a une volonté, a priori, sous réserve, chez Apple, de revenir au présentiel. Est-ce que ça vous surprend ? Est-ce que ça vous surprendrait ?
La volonté, non. Que ça se passe, oui, en fait.
Ah.
Parce que Covid. Parce que malgré tout, en France et ailleurs, les chiffres remontent un peu. Dans certains, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais aux États-Unis, il me semble que le port du masque par les employés Apple dans les Apple Store a repris obligatoirement.
C'est le cas en France aussi.
C'est le cas en France aussi, merci. Donc, pas encore pour les clients. J'ai l'impression que ça ne serait tardé. Ça se murmure, hein. La ministre de la Santé en France qui conseille de porter le masque. J'entendais à la radio le patron de la SNCF qui prépare les départs en vacances, qui dit c'est pas obligatoire, mais enfin on va l'inciter beaucoup auprès déjà de nos employés et aussi de nos usagers. On est fin juin, donc juillet-août, si ça explose un peu, il n'y aura plus de quoi ensuite organiser quelque chose sur place et à faire venir des gens, et puis les gens vont peut-être pas venir et tout ça. Ouais. J'ai du mal à y croire, hein, pour l'instant. C'est,
Bon, c'est pas vrai, le Covid n'est pas du tout en train de revenir, hein, je suis pas d'accord avec toi.
C'est vrai.
Dit-il avec 30...
Tu seras le dernier cas, d'ailleurs.
Dit-il voilà. Avec ses 39. Voilà. Non, mais bien sûr, je partage ton sentiment. François, t'es comme nous, tu comprends l'envie, mais tu penses que c'est peu probable ?
Je rejoins complètement, j'ai rien à rajouter, c'est exactement, j'ai exactement la... Si tu m'avais interrogé le premier, j'aurais dit quasiment mot pour mot ce qu'a dit Fabrice. Je pense qu'il y a une vraie envie, mais que la situation est en train de se dégrader. On le voit en France, on le voit ailleurs en Europe et dans le monde. Et vu le taux, on est à x2 quasiment là dernièrement, donc je pense que non, clairement ce sera encore du distanciel. Ils ont tenté un petit retour en présentiel à la WWDC. On sait qu'il y a des journalistes qui ont été invités à voir la keynote en extérieur. Il y a eu pas mal de petites photos, vidéos qui sont sorties. On sent qu'il y a une vraie volonté de la part d'Apple de recréer du lien physique. Mais il y a un moment, si la pandémie est de retour, enfin même si elle est jamais vraiment partie, je pense qu'Apple ne s'amusera pas à ça.
Ok, on est tous les trois d'accord. On passe à la deuxième rumeur de la semaine. Elle concerne les AirPods Pro 2 avec une série de visuels qui ont l'air vraiment très authentiques. À la fois des AirPods, des écouteurs et de leur étui de recharge. Un étui un peu surprenant parce que à la fois sur l'une des tranches et sur le dessous, on note la présence de trous qui n'existent pas sur la version des AirPods Pro 1. Alors il y a deux trous sur une des deux tranches. Il y en a trois d'un côté de la prise de recharge et un de l'autre. On en a parlé dans la quotidienne, Fabrice. Tu supposes qu'il s'agit, si ces images sont vraies, de haut-parleurs et de micros. À quoi ça pourrait servir, François, sur un étui de recharge de AirPods Pro ?
Des haut-parleurs et de micros ?
Bah oui.
Non, non, mais ouais, clairement, on voit l'usage. Moi, ça m'est arrivé l'autre jour de. J'en ai acheté dernièrement, parce que voilà, je faisais pas mal de transports en commun. Je les avais testés à l'époque, je les avais pas gardés, puis là, je me suis dit, il y avait une promo sur Amazon, je les ai repris. Et c'est vrai que ça m'est arrivé de les paumer, de vouloir utiliser localisé. Mais en fait, on n'entend quasiment pas le bruit de la sonnerie, quoi. Donc ça paraît plutôt logique, que ça puisse être implémenté. Sur la version qui est sortie au mois de septembre, ils ont implanté le MagSafe, donc le fait que ce soit aimanté. Donc ça, c'était des petits progrès quand même, malgré tout. Mais là, voilà, ces petits haut-parleurs, ça paraît complètement logique. C'est pertinent, c'est très pertinent de la part d'Apple. Et ça permet aussi de refaire une petite piqûre de rappel sur l'application localisée. Parce que malgré tout, les AirTags, ça a l'air de se vendre un peu. Mais vous, je sais pas, dans votre entourage, mais moi, il y a peu de gens qui en ont acheté en dehors de moi et des geeks. Donc ça peut être aussi l'occasion de rappeler que cette application existe et qu'elle a un intérêt.
Autant je comprends les haut-parleurs, en gros ça va faire qu'on va entendre l'étui qui va biper si on le perd, c'est ça, hein? Mais à quoi sert le micro? À quoi peut servir le
À
micro?
pouvoir parler à tes AirPods? Chouchou, t'es où?
C'est là où je comprends moins
Est-ce que vous vous
l'intérêt.
rappelez, le film I Love You avec Christophe Lambert? Il était amoureux d'un porte-clés, il sifflait. Et ça
Absolument.
répondait I love you.
C'est vrai.
Donc là, ça permettra peut-être de siffler ses AirPods pour savoir où ils sont.
Donc vous y
ça peut être
croyez?
ça. Non, j'y crois pas du tout à ça. En revoyant la photo, les trous sur le petit côté, j'ai du mal à voir ce que ça peut être en fait. C'est assez surprenant, c'est des trous un peu gros. C'est comme, ça ressemble, c'est quand même étonnant, ça ressemble à, pour donner une image à ceux qui nous écoutent, à des mini jacks audio. Ce qui serait quand même un comble. Donc je ne pense pas que
Oui,
ce
c'est
soit
vrai,
ça. En plus,
ça
du
pourrait
coup,
ressembler à ça.
mais je vois pas trop pourquoi, sauf si c'est pour comment dirais-je, faire en sorte que des écouteurs filaires deviennent sans fil. On les branche à ça et du coup le boîtier lui-même est connecté en Bluetooth à l'iPhone et hop ça devient sans fil. Oui, je fais de la science-fiction, François, d'accord.
Et pourquoi
J'essaie
l'étude?
de trouver une explication au trou qu'il y a sur le côté.
Et pourquoi l'étui ne serait pas une petite paire de haut-parleurs lui-même pour de la musique?
Bah ce serait pourri comme son et puis il y a une
Certes.
batterie minuscule alors t'aurais une demi-heure de musique pourrie franchement ça donne pas envie.
T'as une hypothèse, François, t'as sur ces trous sur le côté?
Non, c'est peut-être tout bêtement un fake. On verra ça au mois de septembre. Non, non, mais ouais,
Exactement.
le coup des haut-parleurs, non, le coup du micro, ouais, si ce n'est de dire, dis machin, dis-moi où sont mes AirPods et que ça se met à biper, mais enfin, je vois pas. Non, honnêtement, ou alors c'est finalement peut-être que ce que tu disais, Fabrice. Vous vous souvenez, il y a ce petit produit qui s'appelle le AirFly qui permet de brancher ça sur une prise jack pour créer en gros du Bluetooth un appareil qui est équipé juste d'une prise jack et des AirPods. Après tout, ça pourrait être une solution. Why not? Tu branches une prise jack sur ton appareil, tu mets l'autre bout sur le port qui serait présent sur le boîtier d'AirPods, ça crée un périphérique Bluetooth après tout. Why not? On verra. Mais si ça est là, c'est qu'il y a un usage parce que voilà, même si Jonathan n'est plus présent à 100%, au niveau du design, ça fait moche quand même, quoi.
Ouais, moi je les trouve assez crédibles ces photos, hein. Non?
On verra. Oui, c'est vrai, oui. Elles sont plutôt
Bah.
crédibles, mais.
Non, mais le fait que. En fait, c'est très étonnant hein, pour rappeler, hein, donc il y a de part et d'autre du chargeur, il y a un côté où il y a trois petits trous et un autre où il y a un seul petit trou. Donc ça évoque un haut-parleur et un micro. Mais le fait qu'il y ait un petit haut-parleur là, pour pouvoir que ça sonne plus fort pour les chercher parce qu'ils sont tombés derrière les coussins du canapé, ça, ce serait quand même génial. Rien que ça suffit pour que ce soit intéressant. Pas pour en racheter si on en a déjà, mais c'est une fonction supplémentaire qui serait pas mal.
Bon,
Pour
bah
le
en tout
reste, on
cas,
verra.
ouais. En tout cas, si c'est des vraies images, c'est une fuite assez rare quand même, hein, pour un produit Apple, pas encore annoncé.
Ben, on se prononcera
Ouais.
quand on les verra en vrai,
Ouais,
effectivement.
ouais.
Qui vivra verra.
Si les images sont vraies, ça doit barder en interne chez Apple, en tout cas.
C'est vrai ça.
Le casque de réalité virtuelle, le fameux, celui dont on parle depuis tellement longtemps, bah, ce serait pour le mois de janvier prochain, sa présentation en tout cas. Nos deux amis Marc Gurman et Kuo Ming-Chi, Ming-Chi Kuo, selon la culture, sont d'accord sur le fait que la présentation aurait lieu en tout début d'année, avec une production qui pourrait commencer entre le mois d'août et le mois de septembre. Ça veut dire qu'effectivement, on s'approche du dénouement, et le stay tuned de Tim Cook il y a quelques jours, finalement, dépassera pas 6 mois.
C'est con parce que ce sera juste après mes prélèvements d'impôts, donc du coup j'aurai pas les moyens de me le payer, quoi. C'est pas lourd quand même. Non, mais on se répète, hein, pourtant on n'a pas Alzheimer, mais ça me surprendrait que le produit soit présenté et mis en vente dans la foulée. Ça va être une nouvelle techno, il va falloir trouver des applicatifs, il va falloir trouver un intérêt. C'est pour ça, une présentation au mois de janvier, oui, peut-être. Maintenant, une commercialisation directement dans la foulée, moi j'y crois pas.
Fabrice?
Ouais, c'est ce qu'on disait dans la quotidienne aussi. C'est une nouvelle catégorie de produits, quoi. Du coup, les développeurs, ce qu'on disait, hein, c'est que on était un peu étonné qu'il n'y ait pas de présentation de ça un peu plus précise à la WWDC. Visiblement, c'est pas prêt. Mais il va falloir donner du temps aux développeurs de s'habituer, un peu comme avant la sortie du M1 qu'on connaissait pas encore sous ce nom-là. Il y a eu le Developer Kit qui était une sorte de Mac Mini avec un A12Z dedans pour les développeurs qu'ils avaient à acheter à $500 pour avoir le droit de mettre un peu la main dessus et préparer leurs applications à faire tourner sur l'Apple Silicon.
Ouais.
Alors, ils ont dû payer $500, puis finalement on leur a remboursé, on a été sympathique. Là, on s'attend à ce que le casque coûte 3000. Ça va aussi, si c'est le cas, réduire le nombre de développeurs candidats à travailler dessus, quoi. Mais ce sera pas pour acheter pour les enfants tout de suite, non.
Ouais. François, toi qui as un iPad mini 6, est-ce que le ProMotion te manque?
Je vais pas te dire oui parce que non, en fait, j'ai pas le sentiment de lag. C'est assez bête ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, on va mettre ça sur le dos de la fatigue. Ça pourrait presque faire un bêtise, mais tu pourrais faire un remix, je pense. Non, plus sérieusement, moi, honnêtement...
Non, mais c'est vrai que si tu veux pas dire non, faut pas dire non, hein, c'est sûr.
ça me manque pas, moi, dans la mesure où je l'utilise pas avec le peu avec le pencil. J'ai un pencil et au final, je me rends compte qu'il sert quasiment jamais. Moi, je le sers surtout pour de la lecture de revues, voilà, lecture internet. C'est vrai que c'est pratique quand même de l'avoir. Moi, je l'avais sur mon iPad Pro 2018 que j'ai revendu. Maintenant, c'est pas un gros manque. Donc, le fait que, hélas, comme tu vas nous l'annoncer, ce soit pas au programme de l'iPad mini 7, c'est pas grave, parce que de toute façon, à mon avis, l'iPad mini 7, il arrivera pas tout de suite, parce que l'iPad mini, c'est comme le Mac mini, Apple, elles aiment pas trop ça, donc je sors des nouvelles versions tous les 3, 4, 5 ans.
C'est ça. Bon, oui, on en parle parce que Ross Young, qui a été interrogé sur Twitter sur le sujet, a dit qu'il était peu probable que le ProMotion, donc le 120Hz, arrive sur l'iPad mini 7 à cause de la technologie de l'écran, qui nécessiterait trop de changements, en fait.
Et si je dis pas de bêtises, il est même pas sur les iPad Air M1 présentés au mois de dernièrement, là. Et pareil sur les iPad 9, etc. C'est vraiment un produit spécifique pour le côté pro. Ça paraît logique que ça le reste, pour l'instant.
Ouais. Alors, parmi les autres, peut-être petite déception qu'on est obligé de partager avec vous, si vous attendez l'Apple Watch Series 8, peut-être un nouveau design. On a parlé d'une montre plus plate. Ça, c'est toujours plus ou moins dans les tuyaux, je crois. En revanche, elle risque de s'appuyer sur le même processeur que la série 7, qui lui-même était une version déjà modifiée de la puce de la série 6. Et donc, le changement de processeur n'interviendrait que l'an prochain avec la série 9. Est-ce que c'est si grave, François, de continuer à tourner sur le même pros?
Non, je pense que là, ce qu'on attend, ce qu'on a eu vraiment, mais en toute petite partie avec la série 7 qui était un peu plus grande au niveau de l'écran, on s'attend à un redesign de l'Apple Watch qui reste quand même à peu près similaire depuis la série 4. Non, et puis j'ai pas de sentiment de ralentissement aujourd'hui. Ce serait peut-être plutôt continuer à développer ces nouveaux capteurs. On a parlé du capteur de température, hein, comme tu l'avais évoqué. On a parlé de la glycémie, ça j'ai un peu plus de mal à y croire. Donc voilà, le fait qu'Apple sorte un nouveau modèle, oui, avec un nouveau design, après le côté processeur. Autant à une époque la Watch était un peu lente, autant aujourd'hui, moi j'ai la série 7 et je suis vraiment ravi.
Fabrice?
Je trouve qu'il y a un parallèle à faire entre la Watch et les HomePod, qui en plus partagent le processeur, si je ne m'abuse. Et ce qu'on attend de la part d'Apple, et peut-être qu'Apple y travaille aussi, c'est une amélioration du côté logiciel. François, il faisait référence tout à l'heure. Sur les HomePod, on aimerait bien que Siri marche un peu mieux, voire j'irais même jusqu'à dire marche.
Je te rejoins complètement.
Et sur la montre, il y a des trucs. Les développeurs, ils parlent un peu de ça. Ceux qui font des applications pour la montre, de podcasts, de lier un peu à la santé ou des widgets ou des machins comme ça, ils disent bah, ça reste encore un peu lent. Le logiciel, par exemple, il est très très sévère dans la coupure des ressources données aux applications. Ça coupe très vite. Donc, quand tu veux faire quelque chose qui tourne en tâche de fond, c'est très difficile. Tu as une application de podcast, je pense à Marco Armante qui fait Overcast. Il parle souvent de ça en disant le transfert des épisodes de podcast vers la montre, c'est je suis jamais sûr que ça va marcher, c'est très aléatoire. Voilà. Donc, il y a beaucoup de travail à faire sur les fondements même de watchOS. Et en termes de puissance de puce, comme le disait François, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de péril en la demeure. Il faudrait vraiment arriver à améliorer le logiciel et ce serait très bien. Et en plus, du coup, gardons nos appareils le plus longtemps possible. C'est bien pour l'écologie.
Bon, et
c'était mon message de tous les jours.
Merci beaucoup Fabrice. On va marquer une petite pause et puis on se retrouve avec Ma Maison Connectée. On va continuer à parler d'iPad. À tout de suite. Ma Maison Connectée, l'actu de la domotique avec HomeKit et Matter. C'est avec toi François. Quoi de neuf aujourd'hui?
On va étayer l'information qu'on avait donnée la semaine dernière parce qu'il y a un des porte-parole d'Apple qui a laissé entendre au journal The Verge que finalement l'iPad pourra rester un concentrateur HomeKit. Mais attention, il y a un mais ce ne sera pas un concentrateur Matter. Alors on le rappelle, Matter c'est une technologie qui va pas tarder à être déployée, alors c'était censé être déployé depuis quelques temps déjà, ça simplifiera la connexion entre les différents périphériques et surtout ça rendra normalement, pour toutes les marques qui adhèrent à ce protocole-là, peu importe si vous utilisez de l'Alexa, du Google Home ou de l'Apple Home, parce que je le rappelle, on l'a dit la semaine dernière, on doit bien maintenant parler d'Apple Home et plus de HomeKit, vous pourrez l'utiliser avec n'importe quelle
Excuse-moi,
plateforme.
Excuse-moi, attends pour moi.
Non, mais c'est pas grave, tu seras fouetté. Du coup, vous pourrez continuer à utiliser un iPad pour faire un pont, un concentrateur HomeKit, donc pouvoir accéder à vos périphériques de l'extérieur. C'est ça l'intérêt de ce concentrateur, de tout retrouver dans l'application maison. Mais si vous avez des appareils qui sont compatibles Matter, vous ne pourrez pas utiliser Matter du coup. Donc c'est là la petite limite. Donc on voit qu'Apple, voilà. Honnêtement,
c'est nul.
Ouais, c'est nul. Et en même temps, est-ce que tu peux me citer beaucoup de personnes qui utilisent leur iPad comme concentrateur HomeKit?
Non,
Apple
mais
Home.
si ça a été possible, c'est forcément que des gens s'en sont servis pour ça. Donc, ça va arrêter
Ouais.
de marcher.
Ouais, mais je pense qu'il doit manquer une puce, un truc par rapport à Matter. Je pense que ça doit être ça qui joue. Et voilà. Moi, personnellement,
Ou
je crois
alors
que j'ai.
Apple veut vendre plus de HomePod Mini et d'Apple TV.
Non, Apple ne ferait pas ça, voyons. Apple ne pense pas qu'à l'argent. Peut-être.
J'ai un petit doute. J'ai un petit doute.
Pas pour vendre,
ouais.
mais cela dit, ce sont des produits qui sont plus adaptés pour faire ça que l'iPad, qui n'est pas branché tout le temps. Il faut penser, si on repose dessus pour avoir un accès depuis l'extérieur et qu'on a laissé l'iPad débranché et que du coup il est vide, ça marche pas. Donc
Ben oui.
c'est pas adapté quand même.
Voilà. Je suis d'accord
C'est ça
avec
le
toi.
truc en fait, c'est que ça sous-entend que votre iPad soit tout le temps branché. Ce qui est un peu. Le seul intérêt que ça peut avoir, c'est si vous êtes amusé à vous faire un joli iPad fixé au mur qui vous sert pour piloter toute votre maison quand vous rentrez dans la maison par exemple et que ça sert de concentrateur. Maintenant voilà, c'est pas des appareils qui sont faits pour brancher, pour être branché en continu. Il y a un moment où le truc il risque de chauffer, quoi. Je pense. Et puis voilà, et puis une autre petite news en passant, je vous parle souvent de cette marque chinoise Aquara qui vient de publier, de sortir un nouveau modèle de son pont connecté qui s'appelle le Hub M1, qui a sorti donc le Hub M1 S Génération 2, qui est censé avoir des sonneries personnalisables. En fait, la spécificité de cette Hub-là, c'est qu'il a une sirène intégrée, donc c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser aussi en tant qu'alarme. Il est compatible avec la norme WPA3 en matière de clé de sécurité d'SSID et il sera compatible avec Matter. Il y aura une mise à jour OTA over the air qui permettra de le rendre compatible avec Matter. Donc voilà, petite mise à jour, c'est intéressant et ça peut vous permettre de connecter jusqu'à 128 appareils Aquara, ce qui est quand même énorme.
Ils en ont autant que ça dans la gamme ?
Alors non, mais si tu mets des capteurs de port, des capteurs de fenêtre, t'as des détecteurs d'humidité, tu peux rajouter des interrupteurs connectés, t'as le petit cube, ils commencent à avoir une gamme plutôt sympa, qui est en vente sur Amazon, hein, on l'avait déjà dit, le seul inconvénient des produits vendus sur Amazon, c'est qu'ils sont assez chers, et on les trouve à moins cher sur AliExpress ou d'autres sites chinois. Maintenant, le seul problème, c'est qu'il y a différents modèles, et c'est là où c'est compliqué. Ça repose sur des histoires de serveurs qui peuvent être en Chine ou en Europe, etc. C'est la limite de la gamme Aquara qui est très complexe, vu qu'elle est mondiale.
Ouais, si t'as un château, après, ça fait beaucoup de prises et d'interrupteurs, hein, tu sais,
Fabrice. Bah, il te faut un sacré réseau internet, surtout, mais c'est pas grave.
On n'y pense pas assez aux gens qui ont des châteaux, c'est vrai.
C'est ça. Les coups de cœur de la semaine, bon, on a chacun le nôtre, alors qui veut commencer ?
Moi c'est juste un petit retour en enfance, depuis quelques mois je m'amuse à me commander des boîtes de Lego, toutes plus grandes les unes que les autres et toutes plus chères aussi, après la DeLorean Retour vers le futur en Lego, après le Sonic, le jeu, je sais pas si vous vous souvenez, le petit hérisson en 7 Lego, je me suis fait un petit plaisir. Ils ont sorti Optimus Prime, le camion de Transformers, le chef. Et donc je me suis amusé à faire ça. Pendant que j'étais covidé, Benjamin, je te conseille de te l'acheter. Ça m'a occupé mon week-end covidé devant le Grand Prix de Formule 1, c'était très sympa. Et donc du coup, ce qui est marrant, c'est que c'est un camion et du coup, il se transforme en Optimus Prime. C'est assez marrant à faire. Bon, ça vaut quand même 170€ de mémoire.
Ah ouais.
C'est un joli jouet de gamin, mais Lego joue sur la fibre. Nous sommes des grands ados. Moi, quand j'étais petit, j'adorais les Lego. Donc, du coup, dès qu'il y en a une nouvelle boîte qui sort, eh ben, je me rue dessus, je l'achète et ça prend la poussière.
D'accord. T'as passé un bon moment et on peut voir. Il est où ?
Ah, je l'ai pas là, je vous le montrerai la prochaine fois si vous voulez.
Ah oh bah alors, on est trop déçus.
Ouais,
bah
il est dans la salle à manger, il prend la poussière.
Ah bah oui, t'as raison. Ah bah oui. Bon, on veut le voir la prochaine fois. Fabrice, ton coup de cœur à toi ?
Mon coup de cœur, c'est une petite application que j'aime bien qui s'appelle Mosaïque. Donc il y en a plusieurs de ce type-là, mais en gros l'idée c'est de pallier au manque de gestion des fenêtres du Mac, notamment par rapport à Windows, qui permet plus facilement de ranger ses fenêtres quand on en a beaucoup à l'écran pour les mettre sur le côté, en haut, de manière automatique. Et cette petite application qui vaut une dizaine d'euros, permet de faire ça, de créer aussi des profils où on peut dire voilà, là j'ai les fenêtres qui sont là, je vais les mettre par tiers réparties sur la largeur de l'écran, ou si je prends une fenêtre, je la déplace vers le haut de l'écran et que je touche le bord, hop, ça va prendre tout l'écran à la Windows justement, ou la même chose sur les côtés. Voilà, c'est un petit module pour organiser ses fenêtres sur son Mac. Je trouve ça très pratique. On peut aussi y faire avec des raccourcis clavier pour avoir hop deux coups de raccourci clavier, une fenêtre à gauche, une fenêtre à droite pour pouvoir comparer. Ou quand on fait, alors c'est mon cas, c'est pour ça que je l'utilise aussi, de la traduction, avoir la source d'un côté et le texte à traduire de l'autre. Et en train d'être traduit de l'autre. Voilà, donc moi je trouve ça très pratique. Ça s'appelle Mosaïque, ça coûte une dizaine d'euros, et ça se trouve sur lightpilar.com, lightpilar.com/mosaïque, mosaic.html. Voilà, et je trouve ça très pratique et donc j'en parle à tout le monde.
Super, et ben merci. Moi mon coup de cœur de cette semaine, c'est une app sur iPhone et iPad qui s'appelle FSIM Space Shuttle 2. C'est un simulateur de vol de navette spatiale. Alors, ce n'est que l'atterrissage de la navette qu'il faut gérer. Mais c'est extrêmement réaliste. Et dans la mesure où une navette et un avion ne se pilotent pas du tout pareil, c'est vachement intéressant. Et l'idée, c'est vraiment de faire... c'est un vol qui dure 10 minutes, quoi. Et puis, soit vous vous écrasez, soit vous vous posez bien. Et au moment de l'atterrissage, vous avez vraiment tous les paramètres avec des notes, des pourcentages et tout. Donc, vous savez exactement ce qui a convenu, ce qui n'a pas trop convenu. C'est pas forcément la peine d'être un pilote hein, pour en profiter. Il y a un côté très ludique, même si on peut aussi jouer en mode expert et donc vraiment avoir toute la difficulté comme si on était vraiment un pilote de la NASA. Et il travaille sur une version qui doit sortir dans l'année où là on partira carrément de l'orbite et on gérera toute la descente dans l'atmosphère et tout. Et ce qui m'a plu dans cette appli, c'est vraiment le réalisme à la fois des graphismes et aussi du cockpit, de vraiment l'aspect navigation qui est bluffant. C'est une appli payante qui vaut 4,99 sur l'App Store, donc FSIM Space Shuttle 2, et c'est Skytel, le nom du studio qui propose cette appli. C'est fini pour cet épisode 97. Je vous rappelle que vous pouvez devenir membre de la communauté iWeek sur patreon.com/iWeek. Non seulement vous soutiendrez votre podcast préféré, mais vous bénéficierez chaque semaine aussi d'un bonus, quelques minutes qu'on enregistre juste après le générique et qui sont l'occasion pour nous de vous parler d'un sujet qu'on n'a pas traité au cœur de l'épisode. Ça donne des bonus assez étonnants, assez différents d'une semaine à l'autre. On vous encourage vraiment à rejoindre donc cette communauté sur patreon.com/iWeek. La quotidienne iWeek, c'est le podcast compagnon de la semaine Apple. Du lundi au vendredi, en 5 grosses minutes, on aborde les 5 news essentielles de la journée dans l'écosystème Apple. C'est sur toutes les grandes plateformes de podcast, c'est gratuit. On a besoin de vos notes 5 étoiles aussi et de vos avis parce que vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Et donc, en plus de vous abonner gratuitement et de nous suivre, prenez quelques instants pour donner envie à d'autres. C'est super important. Voilà, merci beaucoup les amis. Fabrice, grand plaisir de passer ce moment avec toi. Idem avec toi, François.
Ben oui. Merci chef. Merci François. Effectivement, c'est toujours sympathique.
Bon, j'espère que vous avez
un moment. Retourne te coucher, Benjamin.
Voilà, je suis à la limite de mes capacités, donc il est temps que ça se termine. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié l'effort. On se retrouve la semaine prochaine, on sera le 7 juillet, ce sera l'épisode 98. Passez une super semaine, faites bien attention à vous, hein. Faites gaffe. Dans les transports, un petit masque, c'est quand même pas mal. Évitez de vous retrouver pas trac. Voilà, évitez de vous retrouver patraque, chaos comme moi. Je vous souhaite en tout cas tout le meilleur. On vous dit à très vite. Passez une bonne journée, un bon week-end. Et à bientôt. Salut à tous. Bye bye.
Salut à toutes et à tous. Bye bye.